Comment lancer une insurrection des consciences? Quel sens donner à nos vies? Comment agir? Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir publient ensemble D'un monde à l'autre, le temps des consciences. Ils sont nos invités ce jeudi.
11h30, 13h.
La première.
Entrée sans frapper, Jérôme Collin.
Bonjour Joseph.
Bonjour Jérôme, bonjour à tout bonjour. Le monde. Qui ne connaîtrait pas l'homme invisible? Alors certes, mais vous me direz lequel? C'est exact, il y en a eu plusieurs. Il y a eu tout d'abord la nouvelle séminale de Herbert George Wells de 1897, mais elle a été suivie d'une déferlante de films à travers les décennies avec toujours le même titre, l'homme invisible. La version initiale, celle de la nouvelle du 19e siècle, est à mon avis la plus intéressante, la plus riche sur le plan du handicap, de l'exploration de l'étrangeté. Griffin, donc le héros, s'efforce de vivre tout simplement une vie humaine, mais il est dramatiquement aux prises avec les obstacles, avec la finitude de l'existence, ses problèmes d'argent, et qui sont encore décuplés quand on a un handicap, ses problèmes d'argent qui poussent à la délinquance, même les gens les plus honnêtes, puis sa passion obsédante, assez autistique, j'oserais dire, pour la chimie à laquelle il consacre sa vie avant même de devenir un visible et qui, d'une certaine façon, l'exclut au moins autant que son invisibilité. Et justement, parlons de ce rejet quotidien systématique dans toutes les interactions sociales. En dépit des meilleurs efforts, le résultat de cela, c'est le vagabondage, puis la mort. Le plus perturbant de la nouvelle de Wells pourrait être que, somme toute, il ne s'agisse pas d'un texte de science-fiction tiré par les cheveux, comme on pourrait s'y attendre quand on voit le titre, mais au contraire, se dégage de cette nouvelle une douloureuse sensation de réalité quotidienne. L'invisibilité de l'homme devient presque secondaire. On vit profondément sa rage d'exister malgré son handicap, ses colères d'être rejeté encore et toujours, de devoir se justifier, d'expliquer l'inexplicable à tout bout de champ. Et les interlocuteurs insensibles de l'homme invisible, à la longue, ils paraissent presque plus étranges que lui. Et en cela, la nouvelle de Wells relève non pas de la science-fiction, mais du roman naturaliste sur le handicap, ce handicap qui rend invisible, qui exclut, qui tue socialement puis physiquement. Cette réflexion humaniste malheureusement semble s'être perdue dans les adaptations cinématographiques ultérieures. La série britannique de 1958, appelée elle aussi L'homme invisible, reprend certes le personnage, mais elle se trompe sur toute la ligne. Notre héros y devient en quelques minutes à peine après son accident et comme si c'était tout à fait dans l'ordre logique des choses, un agent secret, quasiment invincible, que le gouvernement britannique envoie pour ses missions les plus délicates. La dimension humaine tragique est totalement occultée, au profit d'un humour certes parfois réussi, mais je dirais burlesque, parce que totalement hors sol. La dernière adaptation cinématographique date de tout début 2020, donc de cette année-ci. Elle reprend les thématiques de notre temps, à savoir les violences conjugales. Dans le nouveau film, l'homme invisible profite de son statut pour tourmenter une jeune femme. Et c'est à ces basculements de thématiques que l'on mesure à quel point les idéaux de naguère, par exemple la défense de la patrie, ont été balayés à tort ou à raison. Ce qui demeure, c'est l'oubli de la réflexion sur le handicap qui était propre à la toute première nouvelle, celle du Wells, à la fin du 19e siècle. Qu'il s'agisse de la version cinématographique de 58 ou de celle de 2020, ce n'est plus l'homme invisible en tant que sujet auquel on s'intéresse, mais le ressenti des autres, des gens d'inormaux par rapport à lui. Le drame, c'est que au moins dans la société militarisée de 1958, il y avait une forme de rédemption possible pour la personne handicapée. S'il rend service à l'armée ou à la police, l'homme invisible peut avoir sa chance en société. En 2020, la seule question qui semble encore se poser, c'est est-ce que l'homme invisible est délinquant ou pas? Dans la négative, il disparaît totalement de l'existence. Et je crois, pour conclure, que l'homme invisible accompagne le cheminement culturel de l'humanité depuis plus d'un siècle, avec ce sombre pressentiment qui est le mien. Et si dans la société progressiste, individualiste, paranoïaque, qui est de plus en plus la nôtre, la seule catégorie mentale qui reste pour penser la différence, le handicap, c'était celle de de l'exclusion, de la terreur. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à Joseph pour ces éclaircissements. Et à la semaine prochaine, Joseph. Jamie Liddell, Another Day, ensuite Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir sont nos invités. Another Day, c'était Jamie Liddell. Il est 12h13 sur la première. Merci de nous être fidèles.
11h30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Nos invités, on est enchantés de les recevoir dans Entrez sans frapper aujourd'hui, sont Nicolas Hulot. Bonjour Nicolas Hulot.
Bonjour.
On rappelle, hein, Ushuaïa, c'est évidemment vous qui nous avez fait découvrir le monde quand on était petit, dans nos villages, dans nos divans. Et vous nous avez donné envie de le découvrir, toute cette beauté. Vous avez aussi été ministre d'État de la transition écologique et solidaire de mai 2017 à août 2018. Et puis Frédéric Lenoir est avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, sociologue, auteur de nombreux essais, dont notamment La puissance de la joie, Le miracle Spinoza, des romans aussi. Et vous êtes cofondateur de Sève. C'est très important, Savoir être et vivre ensemble, qui propose des ateliers de philosophie avec les enfants. Je le précise parce que nous en parlerons tout à l'heure. Alors, vous publiez tous les deux un livre de dialogue qui s'appelle D'un monde à l'autre, le temps des consciences. En gros, le système est devenu fou. Il est extrêmement difficile de faire bouger les choses dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Et pour rendre possible la la nécessaire transition écologique, nous avons besoin d'une profonde transformation des esprits. C'est votre idée de départ, donc vous appelez à un monde plus fraternel, plus connecté à la Terre, un monde où les grandes joies sont plus désirées que les plaisirs éphémères, un monde où l'argent serait aussi moins convoité. Là, on se dit « mais bisounours », mais non. Vous nous dites dès l'intro, cet autre monde n'est pas une utopie, mais il ne pourra advenir que par une révolution globale de la conscience humaine qui bouleversera alors nos modes de vie. Alors, il y a 9 chapitres, je pense, dans ce livre. Le premier, il est consacré au progrès. Alors, Nicolas Hulot, vous, par rapport à ce progrès, vous dites d'emblée que le problème de la notion de progrès est qu'elle s'est vidée de son sens et est devenue une machine incontrôlable. Bien sûr, il y a du positif dans le progrès. Il y a du négatif, mais le problème, c'est le côté incontrôlable de ce progrès. C'est une machine devenue folle.
Oui, l'idée n'est pas de nier les vertus du progrès. C'est simplement de se rendre compte de ce que j'appelle cette marche triomphante qui nous a bluffé pendant des décennies et qui aujourd'hui prend plutôt des allures un peu de malentendu. C'est-à-dire qu'on a une confusion entre ce qui participe, qui est pour moi le sens premier du mot progrès, à l'amélioration de la condition humaine, et de ce qui n'est parfois qu'une vulgaire performance technologique. Voilà, et le progrès, c'est une société qui reste maître de sa trajectoire, de sa dynamique, et qui a une horizon lucide et clairvoyante. Et j'ai pas le sentiment, mais il suffit de regarder un petit peu le monde. On voit bien que nous sommes ballottés un peu comme dans une mer agitée, dans le réactif et pas dans le prospectif. Et on sait pas très bien où ce courant impétueux va nous mener. Mmh. Simplement parce que nous récoltons les fruits de notre propre succès. C'est le grand paradoxe de l'époque, c'est que notre intelligence est victime de son succès, mais paradoxalement, elle est mise en demeure de prendre en charge justement les conséquences de son propre succès, parce qu'on a changé d'échelle par l'énergie fossile, et ben on a démultiplié nos forces musculaires. Avec l'arrivée des ordinateurs, eh bien, on a externalisé nos facultés intellectuelles. Et quelque part, l'homme est devenu son propre facteur déterminant. Mmh. Et c'est simplement qu'il faut l'acter, parce que cette lucidité ne doit pas nous humilier, elle doit au contraire nous éclairer.
Mmh. Et je vous lis, Nicolas Hulot, vous dites « Pour moi, le progrès doit être un guide pour soulager l'humanité de son inquiétude originelle, la mort, et permettre de traverser paisiblement, voire amoureusement, la vie. » Frédéric Lenoir, vous revenez aussi sur les aspects positifs du progrès dans le début de ce premier chapitre, et puis vous évoquez le mythe de la modernité, cette croyance selon laquelle le progrès est toujours bon, notamment le progrès technologique. Mais il faut souligner ça, Frédéric Lenoir, c'est que tout progrès n'amène pas un progrès sociétal, évidemment.
Absolument, et déjà certains philosophes des Lumières comme Rousseau l'avaient pointé en disant attention, c'est pas parce qu'on a un progrès des connaissances et des technologies qu'on va améliorer le sort de l'humanité, qu'on va aller vers un progrès moral ou spirituel. Et donc effectivement, faut toujours avoir en tête cette vieille phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc il faut que le progrès de la science, des connaissances, des techniques soit accompagné d'un progrès de l'esprit humain, de la conscience humaine, pour qu'on sache, comme l'a dit Nicolas, qu'on reste maître de notre destin, qu'on ne se laisse pas balloter par les événements extérieurs. On voit qu'on est dans un système où plus personne ne maîtrise grand-chose, et ça, c'est pas un progrès. Et donc, effectivement, se poser toujours la question, lorsqu'on fait une découverte, lorsqu'on avance technologiquement, est-ce que c'est aussi un progrès pour l'humain, pour notre lien avec la planète, est-ce que notre lien avec les autres vivants, ou est-ce qu'au contraire, ça va détériorer les sociétés, détériorer la planète. C'est pour ça qu'il faut toujours une réflexion sur l'idée de progrès, et sinon, ça reste effectivement une idéologie.
Vous voyez, en ce moment, pardon, mais je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, mais il y a un débat un peu houleux qui se forme autour de la 5G. Oui. Je n'ai pas une opinion tranchée personnellement, mais je trouve que le simple fait que le débat soit posé, qu'on s'interroge, qu'est-ce que ça nous apporte ? Que demain, ça sera la 6G, de la même manière que est-ce que c'est bien de gagner 10 minutes sur un trajet Paris-Bordeaux ? Est-ce qu'à un moment ou un autre, on peut resynchroniser science et conscience et prendre des petits temps de pause avant de faire les choses, voir si elles ont véritablement une utilité et peut-être anticiper parfois sur les effets rebonds que l'on n'a pas vu venir ?
Voilà. Et on peut effectivement se demander pourquoi est-ce que l'iPhone 12, 13, 14, 20, 27, 32 sera nécessaire. On doit se poser posé cette question. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Après cette question sur le progrès, qui est le premier chapitre, et donner du sens, qui sera le dernier, le deuxième chapitre est nommé « Tout est question de désir ». Et là, évidemment, on va comprendre pourquoi il y aura malheureusement l'iPhone 32 s'il n'y a pas une révolution des consciences. C'est parce que vous le dites, d'ailleurs, Frédéric Lenoir, dès le début, nous sommes des êtres dans la recherche constante de plaisir. Et d'ailleurs, ce plaisir nous est vital, hein, c'est manger, faire l'amour, mais dans cette recherche constante de plaisir, il va falloir se fixer ce que vous appelez tout simplement des limites.
Oui, tout à fait. Effectivement, si on laisse l'être humain livré à lui-même, il veut toujours plus de plaisir immédiat. Sauf qu'on sait très bien, on le voit avec les enfants, c'est que la recherche du plaisir immédiat peut conduire à des choses très négatives. Si un enfant, il mange du sucre toute la journée, des sodas, etc., il va devenir obèse et c'est une catastrophe pour sa santé. Et donc, il faut savoir voir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon pour l'être humain, ce qui est bon pour l'équilibre et l'harmonie des sociétés, ce qui est bon pour la planète. Et c'est tous ces ensemble de choses qu'il faut intégrer lorsque on a du plaisir. Et donc, il faut que le plaisir soit toujours corrélé avec la raison, c'est-à-dire avec la réflexion, avec la conscience, avec la pensée. Et ça, c'est un problème vieux comme le monde. Et les philosophes depuis l'Antiquité, en Orient comme en Occident, nous disent effectivement, si l'être humain se laisse être mu uniquement par son appétence de plaisir, il peut détruire sa vie et détruire la société. Donc, il faut qu'il arrive à avoir une réflexion sur est-ce que tel plaisir est bon pour moi, est bon pour les autres, quelles sont les conséquences pour la planète, etc. Donc on le voit par exemple dans l'alimentation. Il y a des plaisirs très agréables, gustatifs, dont on sait qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de souffrance animale derrière. Par exemple, les animaux issus de l'élevage intensif. On n'est pas contre une agriculture raisonnée, mais il y a une agriculture qui détruit les sols, qui pollue, qui fait souffrir les animaux. Ben, être conscient que renoncer à certains plaisirs gustatifs pour aller vers d'autres plaisirs gustatifs qui ne détruisent pas la planète et qui ne font pas souffrir des animaux, ça c'est un choix conscient et responsable.
Et Nicolas Hulot, vous nous dites, dans ce même chapitre, tout est question de désir, nous avons basculé dans un monde qui crée sans cesse de nouveaux besoins, attentes et désirs que nous ne soupçonnions pas la veille, l'iPhone 32, et que nous abandonnons aussitôt après les avoir assouvis pour nous projeter vers d'autres. C'est une danse un peu folle. Et puis le troisième chapitre, c'est le règne de l'argent. Ça, c'est très intéressant, évidemment, puisque